Dictionnaire de la sagesse ancienne. Cette émission présente les idées fondamentales de la sagesse ancienne qui comprend les traditions initiatiques du passé et aussi les enseignements ésotériques modernes. Pendant une heure, nous allons vous présenter quelques mots-clés et tenter de les définir pour vous. Bonjour David.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Alors, dans cette émission, nous allons vous parler de psychologie ésotérique, d'astrologie ésotérique et de guérison ésotérique. Trois thèmes, trois expressions. Alors, il va falloir, je pense, qu'on commence par définir ce qu'on entend par ésotérique dans l'histoire.
Ésotérique, c'est l'étude de ce qui est caché. Ça vient du grec, hein. Donc, éso, ce qui est interne, caché, non révélé, ce qui n'est pas...
non visible.
Non visible aussi.
Est-ce que c'est dissimulé aussi?
Oui, c'est tout ce qui est ésotérique traite du monde des énergies, en fait. Et les phénomènes sont des matérialisations de ces énergies-là. Donc, quand on parle d'astrologie, c'est la science de l'énergie par excellence, c'est-à-dire des influences, des rayons, sur la Terre, sur les individus, sur le collectif humain, et puis après sur les groupes humains, puis sur les individus en particulier. Et donc ça touche aussi à la psychologie, parce que ces rayons sont qualifiés, ils ont des qualités, et la psychologie étudie ces sept qualités, parce qu'il y a sept rayons. Et ça touche à la guérison aussi, parce qu'il y a des centres d'énergie qui vont être affectés directement, des points d'impact de ces énergies-là. Donc tout est lié.
Mmh. Donc, ésotérique, caché, non visible.
On peut donner peut-être une référence bibliographique pour ceux qui seraient intéressés par tous ces sujets. La référence, c'est le traité sur les sept rayons d'Alice Anne Bailey. Bailey, c'est B-A-I-L-E-Y, édition Lucis Trust. C'est un pavé, hein, c'est cinq volumes. Et les deux premiers volumes traitent de la psychologie ésotérique. Je ne sais plus si c'est le troisième ou quatrième volume, il y en a un qui traite de l'astrologie ésotérique, hein, de la guérison ésotérique, et le dernier traite des initiations, les rayons et les initiations.
Alice Bailey, donc écrit au début du XXe siècle.
Voilà, hein. Entre 1919 et 1949, elle est sous l'inspiration d'un maître, d'un sage tibétain, grand érudit en matière d'ésotérisme, qui s'appelle Joel Kull, et elle écrit sous la dictée, sous l'inspiration de ce maître. Donc c'est en fait plus l'enseignement du maître Joel Kull qui va donner la pierre de base à tout l'ésotérisme du XXe siècle. Hein. Tout l'ésotérisme, tout ce qu'il y a de nouveau, le véritable ésotérisme, hein, pas les mouvements New Age, les Channeling et autres, mais le véritable ésotérisme repose sur cette connaissance des sept rayons qu'on va voir dans l'astrologie, la psychologie et la guérison.
Alors on va commencer David avec l'astrologie, hein, l'astrologie ésotérique. L'astrologie ésotérique.
Qu'est-ce qu'elle a d'ésotérique par rapport à l'astrologie courante? C'est la question qu'on pourrait se poser. Elle est différente, elle inclut l'astrologie courante, traditionnelle. Peu importe après les mots qu'on lui donne, on a dit karmique, symbolique et autres, mais en fait il garde les mêmes régents planétaires. C'est-à-dire que dans l'astrologie courante, les signes, les planètes... sont données et elles influencent en fait le cours de la vie de la personne, la personnalité. Et ce sont donc des régents exotériques. Je donne un exemple pour Bélier. Bélier est relié au signe, à la planète Mars. Dans l'astrologie ésotérique, on étudie une autre influence qui se superpose si l'individu est en contact avec son âme, d'une manière ou d'une autre. Et cette influence ésotérique donne des nouveaux régents. Pour le Bélier, ce ne sera plus Mars, l'individu sera sous l'influence de Mercure. Donc on voit qu'on a une double influence, des énergies qui atteignent la personnalité, principalement par les chakras, les centres d'énergie inférieurs, on verra le lien avec la guérison et la psychologie aussi, et des influences plus subtiles, comme si on se mettait au diapason, comme une radio, on passait, comme si on passait des ondes longues aux ondes courtes, FM, et là on entre en diapason avec d'autres influences qui sont constamment là, mais qui ne nous touchent pas si on n'est pas en affinité avec ce niveau-là. Donc si un individu contacte son âme et un groupe humain, à ce moment-là, il entre sous l'influence de force, enfin d'énergie plus ésotérique.
Donc on est sous le coup de, d'influence au niveau de la personnalité et puis sous le coup d'autres influences au niveau de l'âme.
Pour une partie de l'humanité.
Pour les gens qui sont un peu en contact avec leur âme.
Voilà.
Et je voulais te poser une question, David. On parle aussi d'astrologie karmique où on dit que, comme il y a la précession des équinoxes, les dates de l'année qui font référence à tel signe zodiacal changent, etc. Et que donc ça changerait avec le temps l'interprétation qu'il faut donner des dates de naissance ou de signes.
Oui. Alors l'astrologie indienne prend le zodiaque sidéral. C'est-à-dire qu'elle elle prend en compte cela. Et, c'est-à-dire que la Terre est inclinée et elle fait un petit mouvement de toupie qui donne l'impression qu'elle rétrograde dans les signes. Et donc, ça change de 23 degrés. Et l'astrologie indienne prend en compte cette précession. Et du coup, ça peut changer et souvent ça change les signes des gens. Et les maîtres ont dit qu'ils gardaient l'influence traditionnelle, c'est-à-dire les repères temporels traditionnels, pour acheminer les énergies. Car c'est eux qui reçoivent les énergies sidérales, donc les énergies qui viennent des constellations, qui passent par le Soleil et les autres planètes. Ils les maintiennent et ils les envoient comme...
Comme il y a 23 000 ans alors.
Voilà. Comme jadis, comme lorsqu'il n'y avait pas ce phénomène de précession. Donc en fait, ça veut dire que, et puis moi j'ai pu le vérifier parce que je pratique l'astrologie, que pour moi-même et puis pour d'autres, que ça ne... Alors peut-être qu'en Inde, pour ceux qui vivent sur le sol indien, l'Inde est un pays tellement particulier, à part, qui a toujours abrité la présence des maîtres et un sol et une histoire, une énergie particulière. Mais en tout cas en Europe, et puis peut-être dans le reste du monde, moi je ne trouve pas que ça fonctionne. Je trouve que si on garde, par exemple, le mois d'août pour le lion, et vice-versa pour les signes tels qu'on les connaît traditionnellement, on correspond vraiment à son ascendant, et d'un point de vue ésotérique comme exotérique. Et ça ne, pour moi, ça ne fonctionne pas.
D'accord.
Donc l'idée, c'est que oui, il y a cette précession, mais les maîtres, c'est eux qui dirigent les énergies sur Terre, les maîtres de sagesse. Et Joël Kuhl a fait cette déclaration très importante que, en fait... les maîtres continuent parce que les formes pensées sont créées depuis des milliers d'années, ainsi, au niveau de ces époques-là. Et les maîtres travaillent beaucoup à travers ces formes pensées-là. C'est comme des sortes de voies de garage pour les énergies. Et donc les maîtres continuent de transmettre les énergies dans le temps qu'on leur
Donc si un temps, ce n'est pas la réalité physique de l'alignement d'un tel du système solaire par rapport aux constellations. Mais la forme pensée qui s'attache derrière cette, la période de l'année, par exemple.
Voilà, c'est exactement ça. C'est... Et les énergies sont envoyées, donc ce décalage est géré en fait par les maîtres, ce qui fait que, donc, que l'astrologie occidentale telle qu'on l'utilise est tout à fait correcte. Et moi, en tout cas, c'est celle que j'utilise et je n'y vois pas de problème. Donc dans l'astrologie ésotérique, il y a quand même deux niveaux. Hein. Il y a le niveau du thème astral, du thème de naissance de l'individu, mais avant tout, il y a toute une compréhension de la transmission des énergies, d'où elles viennent.
Ouais.
Et ça va beaucoup plus loin que aussi l'astrologie courante. Par exemple, on sait que les rayons viennent de la grande ourse, elle circule, elle crée une polarité avec les Pléiades et avec Sirius qui nous envoie ces énergies-là. Puis ces énergies tournent dans le zodiaque sous forme de triangle, rentrent dans le soleil, selon les rayons affectent telle ou telle planète, et puis après les planètes nous renvoient ces énergies-là. Donc on voit, il y a toute une compréhension du monde de l'énergie. Hein. Je veux dire qu'en dehors du thème, l'astrologie ésotérique, le tibétain dit que c'est la science ésotérique, ou la science si on ne veut pas utiliser ce mot, en tout cas c'est le champ de connaissances ésotérique le plus abouti car c'est celui qui nous permet de comprendre le monde d'énergie et son fonctionnement, les cycles et les modes de distribution de l'énergie. On peut dire aussi que les énergies affectent avant tout la planète et les différents règnes, et qu'il faut penser en termes de groupe. Ça, c'est aussi nouveau en termes d'astrologie ésotérique. C'est que l'individu est secondaire. On s'incarne en groupe, dans des groupes karmiques. Donc, la famille est liée à ces groupes-là, les amis, les collègues, les gens avec qui on va cheminer. Donc, c'est des incarnations de groupe. Et ça, c'est également important à prendre en compte. Il y a des planètes même aussi qui agissent là-dessus. On sait que les planètes dites transpersonnelles, au-dessus de Saturne, hein, parfois on compte Saturne avec, mais Uranus, enfin Neptune, Uranus, Pluton, ces planètes qui ont un cycle très très lent, parce qu'elles sont loin, hein, elles sont sur une orbite éloignée. Donc des gens naissent, selon des générations, avec tous vont avoir Pluton dans le même signe par exemple. Hein, parce que ça c'est générationnel, donc c'est des planètes transpersonnelles. Et ça, elles sont aussi importantes à prendre en compte au niveau du karma collectif. Qu'est-ce que ça veut dire de naître dans cette génération-là? On sait que ça joue quand même, hein. Voilà, il y a ceux qui sont nés, par exemple, après 68, il y a eu quand même des mœurs différentes. Donc voilà, il y a cette importance du groupe, et après vient l'individu seulement, en fin de compte. Et inutile d'essayer de lire un thème avec les influences ésotériques chez un individu qui n'est pas en contact avec son âme, ça ne sert à rien. Ça ne va rien apporter. Et au
Alors,
contraire.
si on prend le cas d'une personne qui est en contact avec son âme, alors déjà, il faut peut-être arriver à savoir comment peut-on le
Oh, ça peut,
savoir.
si, ça peut savoir. Ça, par rapport au centre d'intérêt de la personne. Est-ce que la personne a commencé, entre guillemets, un travail sur elle-même? Est-ce qu'elle a commencé à remettre en question son mode de vie? Ça passe souvent par l'alimentation. Est-ce qu'elle pratique du sport ou même une pratique de semblant de maîtrise sur elle-même, relaxation, yoga, tai chi, arts martiaux. Voilà, est-ce qu'elle a commencé à faire un travail psychologique, de remise en question sur ses croyances, pour avancer? Est-ce qu'elle commence à se décentrer d'elle-même, à inclure l'autre en tant que vraiment, en tant que personne qui ne va pas simplement lui servir, mais qu'elle va essayer de servir. Est-ce qu'il y a, voilà, une notion de service? Est-ce que le bien commun est présent chez cette personne? Même en germe, même si ça commence, on peut dire que cette personne approche du premier contact avec l'âme. Ou alors, si c'est bien établi, en tout cas, ça va se lire quand on va lire les influences, essayer d'interpréter ça avec les autres modes d'influence, la personne va se retrouver plus ou moins.
Alors, donc tu vas établir le thème astral au niveau de la personnalité et un autre thème au niveau de l'âme, ça se passe comme ça?
C'est le même thème, mais tu vas le lire à deux niveaux. Hein, c'est le même thème parce que la planète, si Mercure, je sais pas moi, si Mercure est dans le Sagittaire, voilà, Mercure, tu vas le lire en fonction des signes qui sont reliés exotériquement à Mercure, c'est
C'est-à-dire ça va avoir...
Gémeaux et Vierge, ou alors ça va être le Bélier, et ça donc tu vas lire une autre influence dans Mercure. Tu vois?
Mais l'influence va être différente selon qu'elle se dirige vers la personnalité ou l'âme.
Voilà. Tu vas lire Mercure en tant que personnalité,
Oui.
ou tu vas lire Mercure en tant que planète qui
En tant que...
transmet une énergie spirituelle. Et c'est pas la même lecture. Les planètes aussi elles-mêmes ont deux niveaux vibratoires différents. Hein?
C'est-à-dire...
Mercure au niveau personnalité, c'est plus une énergie mentale. Au niveau spirituel, Mercure apporte l'énergie du quatrième rayon, et là ça va être une énergie intuitive. Donc c'est pas les mêmes modalités pour cet exemple-là. Donc tu vas lire, c'est pas la même influence, et puis le signe derrière qui agit dessus n'est pas le même. Si c'est la Vierge et le Gémeaux, ce sont des signes qui agissent mentalement, hein, par l'air ou alors la terre, alors que là c'est un feu spirituel, c'est le Bélier. Donc voilà, tu lis, c'est vraiment qualitatif, hein. Les maisons aussi, c'est-à-dire les endroits où les signes et les planètes sont placés, hein, il y a des grands secteurs. Les maisons, c'est comme des champs d'impact sur Terre et dans la vie du sujet. Il y a maison 1, de l'identité, de l'ascendant, la maison 2. Alors ça va être par exemple les valeurs matérielles. On lit souvent l'argent, les choses comme ça pour la maison 2, mais ça peut être les valeurs spirituelles. Tu vois, tout peut être transposé à un autre niveau. Et les signes, pareil. Donc tout ça, il faut lire l'astrologie ésotérique d'Alice Bailey, donc par le Tibétain, et on a les bases de cette nouvelle astrologie. On ne la maîtrise pas, on en a simplement les prémices, les bases, mais il faut se familiariser avec,
Et
et
si
moi
tu
je la
regardes
trouve très utile.
le thème astral des génies de l'humanité ou des grands hommes,
J'ai fait celui de Krishnamurti, par exemple.
ouais.
On ne peut pas comprendre la vie des initiés, donc des êtres qui sont pleinement en contact avec leur âme, si on fait simplement leur astrologie courante.
Voilà, ça à ce
Parce
moment-là, ça
qu'ils sortent peu à peu de cette influence-là. Et au contraire, il faut prendre les influences spirituelles, et là on comprend les enjeux du thème. Et donc on prend les régents spirituels, ésotériques. Et là on comprend parce que ces êtres étaient sous ces influences-là. Autant une personne ordinaire va suivre les droites lignes de son thème de naissance, comme si elle était conditionnée, et vraiment sa vie va correspondre à cela, mais dès qu'une personne est sous l'influence de cette autre énergie, plus elle est sous l'influence de cette autre énergie, moins le thème courant va lui sied. Ça va lui convenir de moins en moins, parce qu'elle échappe à certaines influences, pour se mettre sous l'inspiration, je dirais, d'autres influences. Elle n'est plus conditionnée.
Elle a davantage de libre arbitre alors.
Oui. Elle expérimente beaucoup plus et elle peut aussi avoir accès à d'autres énergies. C'est ça en fait l'astrologie ésotérique. Elle ne nie pas l'astrologie courante, mais elle la dépasse. Elle l'inclut.
Elle est utilisée beaucoup en France, par exemple?
Bah, j'ai pas l'impression qu'elle soit beaucoup utilisée, ou quand on l'utilise, on a tendance à faire les erreurs telles que ah bah tiens, je vais connaître ton ascendant, parce que l'ascendant est lié. Le Tibétain indique que l'ascendant est relié à l'âme, c'est-à-dire l'âme agit par l'ascendant. Mais les gens vont dire, bon, bah, je vais prendre les rayons qui sont, par exemple, si tu es ascendant Capricorne, alors c'est Saturne dans les deux, là. C'est Saturne, parfois c'est la même planète, hein, mais à un niveau supérieur, exotériquement, et ésotériquement aussi Saturne. Donc c'est du troisième rayon, donc la personne va dire, ah bah t'es âme 3. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Parce qu'on change d'ascendant à chaque vie, alors que le rayon d'âme ne change pas. Donc il faut comprendre que nos rayons, notre nature, elle reçoit les influences du thème. Mais le thème ne permet pas encore, on n'a pas les moyens de connaître la structure de rayon de l'individu. Et il ne faut pas
C'est-à-dire le type
conclure.
d'énergie qui influe sur l'individu, hein.
Voilà. Par exemple, si des enfants sont nés dans la même clinique au même moment, ils vont avoir un thème pratiquement semblable, mais les individus sont différents. Et c'est pour ça qu'il faut prendre en compte aussi l'individu. Mais on ne peut pas connaître le rayon d'âme en prenant l'ascendant, ça ne veut rien dire. Je dis ça en réponse aux gens qui commencent à pratiquer cette astrologie-là et qui tombent parfois
Dans ce
dans ces
travers-là.
travers.
Vous écoutez le dictionnaire de la sagesse ancienne, et dans cette émission, nous faisons une série sur la psychologie, l'astrologie, la guérison ésotérique, hein. On a vu l'astrologie ésotérique déjà, et maintenant, David, parlons de psychologie ésotérique. Psychologie, déjà, est-ce qu'il faut dire en deux mots psychologie, ce qu'on entend par psychologie? Qu'on peut
Logos,
dire?
c'est le discours, la science, psyché, l'âme, c'est la science de l'âme. Alors, ce qui est curieux, c'est que la psychologie moderne ne traite plus du tout de l'âme. Et dans la psychologie
Mais
ésotérique, au
elle traite de la
contraire,
personnalité.
voilà, elle traite de la personnalité. Alors, la personnalité triple, c'est relativement accepté, hein. On est un être d'instinct, alors il y a des mots différents, un être de libido, d'énergie vitale. On est dans le réel, dirait Lacan, et puis il y a l'imaginaire, et puis le symbolique, pour reprendre les termes lacaniens. Donc il y a une dimension après fantasmatique, astrale, nous on dirait astrale, émotionnelle, affective et autres, et une dimension cognitive, conceptuelle, intellectuelle, raisonnable. Donc ça, on est d'accord là-dessus. Mais il y a un quatrième niveau pour la psychologie ésotérique, c'est celui de l'âme. Il y a même aussi le niveau du soi, de la monade. Hein. Mais la psychologie de l'âme est importante. Alors, encore une fois, c'est comme pour l'astrologie ésotérique, on va dire à quoi ça sert si une personne n'est pas en contact avec son âme. Là, je dirais, c'est un peu plus important, parce que même une personne qui n'est pas en contact avec son rayon d'âme, donc l'âme est sur un rayon, une énergie, il faut savoir que tous les autres rayons de la personnalité sont des sous-rayons, qui viennent de ce rayon-là. Donc, ils sont colorés par cette énergie-là. Donc même chez les gens ordinaires, on peut avoir une idée de leur rayon d'âme parce qu'ils vont exprimer les qualités de ce rayon d'âme d'un point de vue très inférieur, mais on va retrouver ces qualités-là. Si c'est des gens sur le rayon d'amour sagesse, on va retrouver des aspects du rayon 2, mais un point de vue plus dense et plus déformé, hein. Des gens gentils, des gens qui ont tendance à être peut-être hypersensibles, avoir des peurs un peu plus importantes chez eux. Voilà, idem si c'est des rayons d'âme 3. On va retrouver, même s'ils ne sont pas en contact avec leur âme, une sorte de vivacité mentale, d'adaptabilité, de rapidité. Hein, on voit ça, hein. Je sais pas, chez un commercial, à mon avis, et beaucoup de gens dans le commerce, dans tous ces domaines-là, mais en France aussi, beaucoup de gens qui sont sous l'influence de ce rayon 3, parce que c'est aussi le rayon d'un pays. Donc on trouve beaucoup de gens. Les gens créent un pays. On disait qu'il y avait une collectivité avant plus importante que l'individu lui-même. Les gens dans un pays créent l'âme et la personnalité du pays. Donc on va trouver beaucoup d'âmes 3 en France, parce que la France a une personnalité de troisième rayon. Il y en a un nombre très important. Donc on retrouve le côté mental, rapide.
Donc l'influence de l'âme sur la personne agit quand même, même si,
Oui,
ouais.
moi je pense vraiment que ça agit.
Alors donc tu disais, ben le but de la psychologie, c'est aussi un but d'amélioration, au niveau de la psychologie traditionnelle qui fonctionne au niveau de la personnalité. On cherche à améliorer, à mieux-être,
Bien
à
sûr.
mieux se sentir. Alors qu'en est-il de la psychologie de l'âme alors?
Alors, la psychologie donc ésotérique, elle va inclure, comme l'astrologie, la personnalité et l'âme. Donc on va essayer d'étudier, de comprendre les influences
Mais là,
qui vont.
ça vise pas à améliorer l'âme, si? Ça vise à...
Si, parce que en essayant de comprendre les influences d'un individu, les influences de sa personnalité et de son âme, l'individu peut être en mesure, ou s'il le fait par lui-même, de mieux comprendre donc ses énergies, c'est-à-dire les qualités et surtout donc les défauts qui vont avoir tendance à se manifester en lui. Et ces défauts, il a tendance d'ailleurs souvent à les prendre comme des qualités, parce qu'il est fait de cela. Et on a aussi tendance à manquer de tolérance et de compréhension vis-à-vis de personnes qui ne sont pas comme nous, qui sont constituées par des énergies différentes et qui peuvent être parfois complètement opposées ou très différentes, très étrangères à nous. Donc ça développe aussi la tolérance, la compréhension, donc la fraternité. Et pour nous, ça nous permet de comprendre nos mirages, c'est-à-dire les illusions qui ont pour source notre vie émotionnelle, hein. Ces formes d'illusions-là, donc les mirages, on va appeler ça comme ça, sont importants, plus chez certains rayons que d'autres, et ils prennent des formes particulières, et plus on les comprend, plus on les voit en nous, et plus on peut faire un travail pour se désidentifier, se détacher.
Donc la psychologie ésotérique, ça consiste à mieux connaître son âme, les qualités, les caractéristiques de son âme, sachant que cette âme influe sur notre personnalité, et donc
À travers
pouvoir...
ces sous-rayons, hein, il faut
Ouais.
comprendre que c'est comme si l'âme descendait des fils dans la personnalité, ce sont ces sous-rayons. Alors elle descend un premier fil au niveau de la personnalité. Il y a un rayon pour la personnalité, il y en a un pour le mental, il y a un autre fil, il y en a un pour l'émotionnel et il y en a un pour le corps. Donc on a quatre niveaux plus un cinquième niveau avec l'âme en fait. La personnalité étant un rayon qui intègre le mental, l'émotionnel, le physique en un tout cohérent.
Et alors, en dehors de dire que l'âme relève, on va dire, de tel ou tel rayon d'énergie, cette psychologie ésotérique, qu'est-ce qu'elle enseigne sur l'âme?
Alors, elle enseigne par exemple qu'il y a deux lignes, deux types d'âmes déjà. Les rayons 1, 3, 5, 7 vont donner des types d'énergie spirituelle, je dis bien spirituelle, hein, tournée vers l'extérieur. Le type 1, la volonté. Le type 3, l'intelligence abstraite. Le type 5, l'intelligence concrète, scientifique. Et le type 7, l'organisation. Donc, c'est des formes d'énergie qui sont tournées vers l'extérieur, vers la maîtrise du monde, la connaissance,
L'âme se tourne volontiers vers ses corps d'incarnation. Quoi.
Alors, et donc vers le monde extérieur. Alors que les âmes qui sont sous l'influence du rayon 2, 4 ou 6 sont au contraire tournées vers l'introversion. Donc on a déjà les deux tendances fondamentales d'un être. Alors on est un mélange de ça, donc on est rarement que sur une ligne. On est un mélange. Mais déjà, il faut savoir si son âme est tournée vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Et on peut souvent confondre ces rayons de personnalité et le prendre pour le rayon de l'âme. Donc ça, c'est une manière de bien se connaître. Et donc, l'âme va avoir une qualité dominante. Si vous êtes âme 4, la beauté, l'harmonie, la joie peut-être, mais en tout cas, ces qualités-là vont être fondamentales. Ce qui ne va pas être le cas si vous êtes une âme 5. L'analyse, la compréhension, la précision des choses, du monde, prennent une toute autre dimension. Donc on voit hein, vraiment selon les rayons, si vous êtes sur le rayon 2 d'amour-sagesse, bon, bah, ce sont cette qualité-là première. Et c'est intéressant de voir que les gens volontairement, même s'ils ne mettent pas ces mots-là, j'ai dit volontairement, c'est plutôt inconsciemment, les gens recherchent ou tentent à travers leur personnalité d'exprimer cette qualité fondamentale. Et l'astrologie ésotérique dit aussi qu'on se réincarne, on renaît. Donc le rayon d'âme ne change pas, mais à chaque nouvelle incarnation, l'âme va émettre des nouveaux sous-rayons pour essayer de développer toute sa gamme d'expression. Parce que les sept sous-rayons de l'âme, c'est toute la gamme du rayon d'âme en fait, mais qu'elle exprime dans la personnalité à des niveaux différents, personnel, mental, émotionnel, physique. Et les incarnations sont là pour développer toute cette gamme, ces sous-rayons, pour permettre à l'âme d'avoir une maîtrise sur son incarnation à travers différentes modalités. Donc différents sous-rayons. Donc on voit que les choses sont bien faites. Donc la théorie de la réincarnation est fondamentale dans la psychologie ésotérique également. Mais on pourrait étudier chaque rayon en fonction de ses mécanismes de défense, comme l'astrologie courante, donc des types de mirages, c'est-à-dire de défauts, des types psychiatriques, névrotiques, voire psychotiques, mais et puis aussi toutes les qualités que chaque rayon va apporter. Chaque rayon a son lot de génie, je dirais. Hein, ça. Chaque rayon peut faire des choses extraordinaires dans son domaine. Donc, on a vraiment une compréhension profonde de l'être humain avec ces rayons-là. Et puis, en plus, il y en a 7. Donc, il n'y en a pas non plus 15. Il n'y en a pas seulement 3. On a 3 énergies fondamentales au niveau de notre soi, de notre étincelle, c'est-à-dire ce qui est au-dessus de l'âme. Hein, notre partie parfaite qui ne s'incarne pas mais qui est en nous et qui est là, qui renvoie à la Trinité. Hein. On est sur l'aspect pouvoir, hein, amour, sagesse ou intelligence. On est sur l'aspect du Père, du Fils ou de la Mère divine, en quelque sorte. Donc ça, c'est plus profond encore. Mais sinon, au niveau de l'âme et de la personnalité, on est toujours sur 7 rayons. Et on a vu, il y a la ligne Père, 2, 4, 6, et la ligne impaire, 1, 3, 5, 7. Et donc on est un mélange. Et c'est ça qui va être intéressant de voir comment notre mental fonctionne.
Et alors, cette psychologie, est-ce qu'elle traite aussi des relations entre les personnes, entre les groupes ?
Tout à fait. On va voir que dans certaines familles, il y a certains rayons qui reviennent beaucoup, qui vont créer un petit peu la couleur de la famille. Hein ? On a par exemple des familles très scientifiques. Assez mentales, des familles d'ingénieurs par exemple, on a des familles très artistiques, des familles assez mystiques, religieuses.
Donc c'est pas que le conditionnement de la famille qui fait que les fils et les filles d'ingénieurs se retrouvent aussi sur les bancs des...
Non, c'est karmique parce que l'âme choisit sa famille. Et les familles se sont aussi choisies entre elles, donc c'est un processus naturel, on s'incarne dans une famille en fonction... Donc l'âme va étudier... les énergies, c'est-à-dire les rayons. Énergie, rayon, c'est synonyme, il n'y a que ça. Il n'y a que des rayons, en fait. L'âme étudie les rayons et il faut que cette structure familiale va venir soit gêner l'âme, mais volontairement, pour lui permettre de dépasser certaines choses, ou au contraire, faciliter d'autres. C'est un choix de l'âme. Donc c'est intéressant d'étudier sa famille. C'est les premiers modes relationnels que l'on a. Et puis, ça marche aussi avec les enfants, ses propres enfants. Quels sont les enfants que l'on crée ou que l'on permet de venir au monde, hein, à qui l'on permet de naître. Et aussi les couples, c'est intéressant. Les couples peuvent étudier. Alors, pour qu'un couple marche, il faut qu'il y ait des rayons communs. Hein? Et souvent, c'est intéressant de voir comment les couples se sont unis. Qu'est-ce qui, chez l'un et chez l'autre, nourrit la relation? Et il faut des rayons communs et il y a forcément des différences. Les différences font progresser. S'il y a trop de différences, ça peut créer une voie de trop forte résistance. Et à la longue, ce qui a aussi motivé à un moment la relation peut ne plus la motiver. Ce que l'on n'a pas dit, Olivier, c'est qu'il y avait des rayons mineurs et majeurs. Et ça change aussi l'individu. Alors le rayon d'âme, il est unique, il reste le même, on a dit, de vie en vie, d'où l'importance de le connaître. C'est notre identité. Mais par contre, au niveau du physique, de l'émotionnel, du mental et de la personnalité elle-même, il y a un rayon mineur et un rayon majeur. Le rayon mineur s'exprime plus dans la première partie de vie, notamment l'enfance, et au fur et à mesure, il laisse le pas à l'autre rayon majeur. Et ça peut changer beaucoup. On peut changer au niveau de sa personne.
Au cours de sa vie, donc on
Voilà.
change vraiment de caractéristiques presque, ouais.
On passe en tout cas d'un rayon à l'autre. Alors si c'est le même, c'est renforcé.
Ouais.
Si on est sur la même ligne, il y a une petite nuance. Si on passe du rayon 6 au rayon 2, par exemple, hein, de la dévotion, l'idéalisme, au rayon 2, au rayon d'amour, sagesse, bon, c'est pas la même chose. Mais parfois, on change de ligne complètement, hein, d'une ligne extériorisée vers une ligne intériorisée ou l'inverse. Et au niveau du mental, ça donne une fonction mentale complètement différente. Au niveau affectif, en général, le corps émotionnel est composé des rayons 2, 4 ou 6, donc ça change pas énormément. Et souvent dans le physique, on a des rayons 3 et 7, ou 7, 7, 3, 3, 3, 7. Donc les rayons physiques sont beaucoup influencés par les autres rayons. Donc ce qui est important, c'est surtout ce niveau personnalité mentale. C'est là qu'on voit vraiment les grandes différences chez les individus. Donc à l'école, on voit des enfants très différents. Et par exemple, aussi, ça peut aider beaucoup les pédagogues, qu'on a tendance à voir l'enseignement, par exemple, sur un type troisième rayon en France. C'est-à-dire on accumule la connaissance, on l'engrange. On n'est pas sur d'autres processus analogiques, par exemple, qui conviendraient à des types quatrième rayon mentaux. Ils fonctionnent par analogie, par image. Donc on voit vraiment, et même au niveau des comportements, le type premier rayon a tendance à être un enfant ou une personne isolée, seule.
Donc ça, c'est le rayon qu'on appelle celui du pouvoir.
Voilà. Seul, mais bien dans cette solitude et avec un pouvoir et une forme d'autorité naturelle. Donc on voit voilà qu'il y a vraiment des rayons très différents. Peut-être qu'on peut donner les noms avant de les caractéristiques des rayons. Donc le rayon 1, rayon de la volonté, de la puissance, rayon 2 de l'amour sagesse, rayon 3 de l'intelligence créatrice, de l'adaptabilité aussi. Rayon 4, le rayon de la beauté, de l'harmonie par le conflit. Le rayon 5, le rayon de la science, de la connaissance concrète. Le rayon 6, la dévotion, l'idéalisme. Et le rayon 7, le rayon de la structure, de l'organisation.
Voilà, donc pour conclure sur ce thème, peut-être juste rappeler le livre des références, c'est celui d'Alice Bailey.
Psychologie ésotérique. Voilà, les gens peuvent commencer par le volume 1 du traité des 7 rayons qui est psychologie ésotérique.
Aux éditions Lucis Trust. Écoutez le dictionnaire de la sagesse ancienne. Dans cette émission, on fait une série sur l'astrologie, la psychologie et la guérison ésotérique. Et nous voici rendus maintenant à essayer de définir pour vous ce qu'on entend par guérison ésotérique. Alors, David, déjà, qu'est-ce qu'on cherche à guérir?
Alors bon, c'est un terme qu'on ne devrait pas employer, parce que c'est un terme qui est réservé aux médecins. Je l'utilise là parce que c'est le mot utilisé par le Tibétain. Peut-être que...
Donc le Tibétain, ce maître de sagesse qui a donné les enseignements écrit par Alice Bailey.
Voilà.
Donc alors, il y a un livre qui s'appelle Guérison ésotérique.
Oui, oui. Je ne sais plus si c'est le volume 3 ou 4, mais c'est dans le traité sur les 7 rayons. Et donc, peut-être qu'on pourrait parler plutôt d'harmonisation énergétique, parce que la guérison implique le retrait d'une maladie, hein,
oui.
L'effacement d'une maladie, alors que c'est plus une question d'action sur le corps éthérique du sujet, de rééquilibrage, de nettoyage, d'harmonisation.
C'est-à-dire qu'on va directement aller voir la cause de la maladie.
Enfin, du déséquilibre peut-être, parce que c'est compliqué en fait. Donc déjà, c'est pas correct de parler de santé, de maladie, c'est un terme réservé aux médecins. Bon, c'est la loi, c'est comme ça. Donc, même si ce terme de médecine et d'art de guérir existe depuis l'Antiquité, et même depuis des périodes très très reculées, par le biais d'ailleurs de l'énergie, il y a des médecins énergétiques, ou des hommes médecine, ou des chamans, ou des gens qui ont guéri par toutes sortes...
Ou par le biais de la psychologie aussi.
Par le biais aussi de la psychologie, mais des magnétiseurs ou des gens qui travaillaient par leurs mains, ça existe depuis toujours. Alors on appelle ça, ma foi, comme on veut, mais c'est quand même un travail sur le corps éthérique. C'est le propre de ce que le Tibétain appelle la guérison ésotérique. Moi, je vais parler là d'harmonisation énergétique. On harmonise, on travaille sur le double subtil du corps.
Donc c'est ça que tu appelles le corps éthérique, hein,
voilà.
Le double subtil du corps.
Le prana, le chi en Inde,
les chakras.
Le chi chez les Japonais. Donc, il y a ces fameux chakras. Il y a ces méridiens aussi. Alors, les chakras, c'est un endroit où les méridiens, c'est-à-dire les fils, les conduits d'énergie, les circuits énergétiques se croisent plusieurs fois. Et c'est comme une gare de triage, hein, un carrefour. Et il y a 7 endroits majeurs dans le corps. Le sommet de la tête, le front, la gorge, le cœur, enfin la région de la poitrine, le plexus solaire au niveau de l'estomac, le hara, le deuxième chakra qui est sous le nombril, et celui qui est à la base, au niveau du périnée, du coccyx. Ce sont les 7 chakras. Il y a d'autres chakras secondaires. On dit qu'il y en a 21 secondaires. On les trouve dans les articulations, hein, poignets, coudes, épaules, et d'autres endroits du corps. Et il y en a des plus petits qui deviennent des points d'acupuncture, en fait, des points le long de certains courants d'énergie. Comme le système vasculaire est nerveux, le système vasculaire nerveux sont la réplique dense, gazeuse et puis liquide, et les os en quelque sorte aussi, hein, sont la réplique de la trame éthérique, c'est-à-dire des méridiens. Et on a vu donc les méridiens se croisent dans des tourbillons, des vortex. Et chakra, ça veut dire spirale, vortex. Donc voilà pour la constitution. Et ces chakras sont importants parce que les corps plus subtils ou les dimensions plus subtiles de l'être vont agir dessus. Le corps émotionnel, qui va surtout agir sur le plexus solaire, alors que les deux chakras en dessous sont plus en lien avec le corps éthérique et physique proprement dit. Et puis le haut du chakra du cœur aussi, à gauche. Donc le cœur gauche aussi est en lien avec l'émotionnel supérieur, les sentiments amoureux. Le corps mental va agir beaucoup sur la gorge, la personnalité sur le front, et l'âme agit sur le sommet de la tête. Donc voilà pour les niveaux vibratoires. C'est-à-dire que quand on est sur un niveau, si on est sur le plan émotionnel, c'est comme si on faisait vibrer tous les chakras sur le « la » du plexus solaire, en quelque sorte. Hein. Mm-hmm. Sur la note du plexus solaire, sur le niveau du plexus solaire. Donc ça, c'est le niveau. Ce qui complique les choses, c'est que les rayons vont agir sur chaque rayon, sur un des chakras. Ça en termes qualitatifs, c'est-à-dire le premier rayon, pouvoir agit sur la couronne. Le cinquième rayon, la science, l'intelligence concrète, la concentration sur le front. Le troisième rayon, l'intelligence créatrice sur la gorge. Le deuxième rayon, l'amour-sagesse sur le cœur. Le sixième rayon, la dévotion, l'idéalisme sur le plexus solaire. Le rayon 7, le rayon de l'organisation, de la structure sur le chakra de l'abdomen, et le chakra de la base est relié au rayon d'équilibre, d'harmonie, par le conflit. Mais ça c'est tous les... Donc les rayons agissent dessus, mais après sur quel niveau? Donc on voit qu'on a les chakras qui reçoivent les énergies des rayons, mais sur quel niveau? Si on est sur le plan mental, donne un exemple, si on est mental de 7e rayon, la gorge reçoit ce rayon, mais après le dirige vers l'abdomen qui correspond à son rayon. Tu comprends, Olivier?
Oui.
C'est des questions de niveau. Si on est au niveau de l'âme et qu'on est âme 4, l'âme 4 est reçue par la couronne, parce que tous les rayons de l'âme sont toujours reçus par la couronne. Donc le rayon de l'âme du sujet est reçu par la couronne, mais il va influencer le chakra de la base qui est relié au quatrième rayon. Donc voilà. Donc la guérison ésotérique, ou l'harmonisation ésotérique, c'est l'art de comprendre ces niveaux-là d'énergie, de comprendre les qualités qui sont dans chaque chakra, en termes de rayons, et d'harmoniser, de nettoyer toutes les charges énergétiques qui sont dans ces chakras-là. On les nettoie, on agit sur des chakras majeurs, importants, qui ont besoin.
Et alors comment, par
Alors,
comment?
par la main, on apprend à s'aligner, on apprend à transmettre. Alors, l'intervenant doit apprendre à hisser son niveau de conscience. C'est pour ça que ça touche à la méditation. En général, le guérisseur habituel ne connaît pas tout ça. Par exemple, en Normandie, moi, j'ai beaucoup entendu parler de ça, puis il y en a un petit peu dans toutes les campagnes, des guérisseurs par magnétisme,
Oui.
hein, qui traitent d'ailleurs autant les animaux souvent que les hommes. Eux ne travaillent pas avec l'énergie spirituelle, mais avec l'énergie vitale, souvent même de leur corps vital, de leur rate notamment. Et ce sont des hommes souvent assez, des hommes ou des femmes bien enracinés, robustes, en contact avec la nature, et qui vont aider, soulager. Et eux, souvent, ont une action vraiment sur le symptôme, sur la maladie, hein. Puis il y en a qui ont des spécialités, qui enlèvent le feu, les brûlures, etc., qui agissent sur divers systèmes. Voilà. Et ça, c'est le premier niveau. Et après, il y a les guérisseurs, ça, c'est la grande majorité, qui va agir beaucoup par leur plexus solaire ou un petit peu par le mental, mais c'est beaucoup moins courant. C'est-à-dire sur le niveau habituel de l'humanité, sur les couches supérieures, plus ou moins, donc souvent des médiums ou des channels ou des gens qui canalisent les énergies, qui vont les transmettre. Alors, vu que les gens sont souvent sur les niveaux inférieurs de l'émotionnel, les niveaux supérieurs de l'émotionnel, où sont ces intervenants-là, vont déjà soulager, en quelque sorte, les gens. Mais plus rares sont ceux qui travaillent sur le mental inférieur, voire sur le mental supérieur, c'est-à-dire l'âme. Et ceux-là, on peut parler vraiment de guérison spirituelle ou d'harmonisation énergétique à un niveau spirituel, parce qu'ils amènent dans le système du sujet une énergie animique, une énergie d'âme. Et l'énergie d'âme qu'ils transmettent va réveiller en quelque sorte l'énergie d'âme du sujet. Et plus on est aligné, donc plus on peut faire descendre, faire agir cette énergie-là, et mieux on connaît aussi le corps énergétique, plus on va sentir les centres qui vont avoir besoin. Donc on va intervenir dessus, on va déverser cette énergie-là dessus. Et la matière inférieure va se décristalliser, une matière nouvelle, une substance en fait plutôt, une énergie nouvelle va venir dans le chakra et va agir sur toute la région concernée, contrôlée par le chakra. Et après, l'idée c'est d'harmoniser aussi toutes ces énergies-là. Donc l'harmonisation énergétique, c'est nettoyer, remplacer par des nouvelles énergies, équilibrer tout cet ensemble-là.
Et comment se sent une personne, alors un patient qui vient se faire harmoniser au niveau énergétique, comment elle se sent en
Normalement,
sortant?
alors ça peut dépendre des centres qui ont été touchés, des nettoyages nécessaires à vivre, mais normalement on se sent plus léger, peut-être pas tout de suite si on passe par une phase d'élimination, mais après coup normalement on se sent plus dégagé, plus léger, plus subtil, plus harmonisé, on respire mieux, on se sent plus libre et souvent les gens continuent parce qu'ils sentent vraiment le bienfait. Le maître Jua Cool dit que si on enlève des particules inférieures et qu'on les remplace par des particules supérieures, l'individu est obligé d'évoluer. C'est mécanique. C'est-à-dire ses corps sont plus fins, donc son âme va, plus on nettoie ce corps éthérique, qui est le dernier corps subtil en quelque sorte, hein, plus les corps au-dessus, émotionnels, mentaux et voire spirituels, vont pouvoir agir sur l'individu en incarnation. Et c'est à ça que ça. C'est pour ça que je préfère parler d'harmonisation énergétique, parce que parfois, et souvent, il n'y a pas forcément guérison du symptôme. Ça, c'est très compliqué, ça dépend de plein de conditions qui sont liées au karma du sujet. Donc, les guérisseurs ne devraient pas s'exciter, de peut-être même pas parler de guérison, parce qu'il n'y a pas forcément disparition du symptôme
Physique.
physique. Ce qui serait souhaitable, c'est que les médecins et les harmonisateurs ou les magnétiseurs, appelons-les comme on veut, travaillent en coopération. Parce que lui, le médecin, son but, c'est de faire disparaître le symptôme. Le médecin ou l'homéopathe ou le naturopathe ou ceux qui sont autour de ce travail-là du corps. Du corps et puis du bien-être aussi du sujet. Mais l'harmonisation énergétique, donc, c'est vraiment harmoniser les énergies. Parfois, il y a amélioration du symptôme, il peut y avoir disparition du symptôme, ça arrive, mais c'est une condition qui n'est pas contrôlée par les guérisseurs, contrairement à leurs déclarations péremptoires. Beaucoup de gens prétendent guérir ceci, cela. Quand le sujet guérit, peu importe le moyen d'ailleurs, c'est que les conditions karmiques et son état le permettent.
Alors, les conditions karmiques, qu'est-ce qui règle ça alors?
Alors, tout dépend si la cause vient d'une vie passée, si ça peut être, si c'est le karma génétique, je dirais, de la famille. On peut parfois pas faire grand-chose, on peut que soulager ou accompagner parfois. Ça dépend de plein de choses. Et puis parfois, l'individu a besoin ou parfois il peut être attaché aussi à son symptôme. Donc là, on touche à des mécanismes psychologiques plus profonds. Ou alors parfois, vivre la maladie, la souffrance est nécessaire pour épuiser un karma, des actions ou des exactions passées pour épuiser donc les charges reliées à ces actions-là. Parfois, on est obligé de passer par certaines expériences comme la maladie, parfois la souffrance. On n'a pas forcément un contrôle comme on le voudrait là-dessus. Il y a des lois, en fait, c'est ça l'idée.
La guérison ésotérique n'est alors donc pas forcément physique.
C'est pour ça, voilà, qu'il ne faut pas forcément parler de guérison parce qu'on pense à un symptôme qui disparaît.
Donc on peut guérir au niveau de l'âme, mais pas au niveau physique, et mais on va emporter cette guérison dans la vie d'après donc.
Voilà, c'est probable. Alors parfois les gens vont jusqu'à la mort. Et parfois certaines conditions karmiques vont faire en sorte que l'individu va mourir de cette maladie, mais il peut être guéri intérieurement.
La cause
La
est...
cause interne peut.
Oui.
C'est pour ça que, tu vois, la guérison, c'est quelque chose de. Le mot guérison, non seulement au niveau juridique et autres, ça touche à la sphère médicale, mais même à un niveau philosophique ou psychologique ou au niveau de la compréhension de la chose. Voilà, il y a plusieurs niveaux dans l'être, et donc on peut être harmonisé à un niveau, ne pas l'être, parce que le corps dense est beaucoup plus lent. Il est fait de matière, et parfois la matière va rester comme ça
Il faut du temps pour que
jusqu'au
le...
bout. Mais les corps s'améliorent. Si on accepte qu'on est une âme qui se réincarne, les corps se subtilisent. Et au fur et à mesure, l'appareil énergétique, donc le corps, est de plus en plus sensible, réceptif aux énergies de l'âme. Pareil pour les émotions. Alors le tibétain dit que les émotions sont pour une très large part à l'origine des maladies, des déséquilibres. Donc faire un travail sur soi est aussi très important. Pour éliminer, se libérer de ces charges émotionnelles. Les maladies d'origine mentale sont très rares. L'autre part essentielle des maladies, ce sont de tout ce qui est hérité. Tout
Donc
ce
soit
qui
c'est
est
psychologique, soit
génétique,
c'est hérité dans la plupart des cas. Hein.
hérité. Alors soit c'est génétique, soit c'est dans la substance de éthérique planétaire, où il y a des maladies, par exemple le cancer. Alors c'est génétique, mais c'est génétique parce que c'est dans la substance planétaire, c'est une très vieille maladie. Ou les maladies comme la syphilis,
Que
ou la tuberculose.
l'homme a toujours connu le cancer, alors.
Depuis des époques très très anciennes, le cancer existe. Oui. Donc ça, c'est traité dans la guérison ésotérique. Je conseille aux gens d'aller lire ce livre. Il y a donc la cause de ces maladies collectives qui sont dans le karma planétaire. Il y a énormément de choses. Il y a toute une compréhension de la structure énergétique de l'homme dont on a parlé. Moi, j'ai parlé plus de la pratique que j'ai faite, que ma femme fait aussi, donc j'ai pu un petit peu essayer de rendre ça un peu plus concret dans le travail. Il y a un peu des modes d'approche différents, mais la guérison ésotérique repose sur le travail sur les chakras. On peut même travailler secondairement sur les méridiens eux-mêmes, par l'acupuncture ou par les mains aussi. C'est-à-dire les mains éthériques par le toucher, mais aussi à distance, par l'influence. On est des êtres éthériques, donc on peut agir sur l'éthérique de l'autre. C'est ça l'harmonisation énergétique repose sur cette loi-là.
Et là, je lis une phrase de extrait d'Alice Bellé, donc dans un de ses livres où elle traite de la Donc elle, ce qu'elle appelle la guérison, hein, l'harmonisation, si tu veux. Donc elle dit que toute maladie résulte d'une inhibition dans la vie de l'âme. Donc en fait, il s'agit bien de guérir l'âme.
Alors, au niveau spirituel, c'est les inhibitions ont lieu à différents étages de la personnalité elle-même, le mental, l'émotionnel, l'éthérique, donc le physique. Et plus on enlève ces entraves, plus on permet à l'âme d'imprégner ces véhicules,
ouais,
de descendre, de les illuminer. On avait parlé un jour du thème de l'immortalité, de la spiritualisation de la matière. C'est lié tout simplement à ce processus. Donc oui, on peut dire que alors l'harmonisateur ou le guérisseur va agir sur le corps éthérique et le psychologue, celui qui va guider dans une exploration plus psychique, va agir plus sur les autres corps. Et que tout ça forme un ensemble. Et puis celui, le médecin, l'allopathe, le naturopathe, va aider au niveau du
corps
corps dense.
physique, ouais.
Donc tout ça forme un ensemble, tout ça permet à l'âme de se libérer de certaines entraves, donc d'avoir des meilleurs véhicules. On est mieux dans une voiture neuve que dans une vieille voiture d'occasion avec l'embrayage qui accroche et hein, ça paraît évident.
Donc plus le corps est en santé, plus l'âme peut se manifester.
Alors en santé, faut faire attention parce qu'il y a des maladies aussi karmiques, je disais, et que les grands initiés ont, qui sont faites, qui sont là pour épuiser du karma. Donc il faut faire attention. C'est pas parce qu'on est en santé qu'on est super spirituel. Hein.
Ouais.
C'est plutôt au niveau du taux vibratoire de l'individu, sa fréquence vibratoire qui lui permet d'être sous l'influence d'énergie plus grande, on l'a vu avec l'astrologie et avec les rayons qui peuvent aussi être vécus sur des gammes de fréquences différentes. Donc l'aura du sujet est différente, elle est plus pure, plus lumineuse. Si, en termes de parfum, des odeurs, les odeurs sont plus subtiles en termes de couleurs, de sons. On peut traduire ça comme ça, on se spiritualise davantage.
Est-ce que la guérison, c'est quelque chose d'important pour les maîtres de sagesse?
Oui.
Le physique semble pas si important que ça quand même.
Oui, mais les maîtres essayent, dans la majeure partie du cas, les maîtres guérissent beaucoup. Il y a des maîtres qui sont spécialisés là-dedans.
Ouais.
Et qui essayent de soulager partout, quand c'est possible, certaines maladies ou certains handicaps. Parce que le corps est important, c'est notre véhicule premier. Et quand on est malade, bah, ça gêne le service, ça gêne l'évolution. Et partout où c'est possible, les maîtres guérissent. Le maître Joël Kull, qui a écrit ses livres, est un grand guérisseur. Mais il y a le maître Jésus est un grand guérisseur. Il y a des maîtres qui étaient avant aussi, par exemple, des artistes comme Raphaël. Le maître qui était avant Raphaël est un grand guérisseur. Il y a des maîtres qui sont spécialisés, qui agissent beaucoup, et qui tentent vraiment de soulager l'humanité de ces maux. Donc oui, l'amélioration de la condition physique est quelque chose d'important pour les maîtres, et notre environnement est très important aussi pour eux. C'est-à-dire qu'on puisse vivre dans un monde sans fission nucléaire, donc sans ces radiations nocives, c'est important, sans ces pollutions, mangeant bio, dans un environnement le plus naturel qui soit. Même s'il y a du béton, c'est pas grave, on peut améliorer et créer des conditions avec l'eau, avec les végétaux, avec la lumière. Tout ça est important. Parce qu'actuellement, on vit une phase, comme tu sais, de grande pollution et le système immunitaire décroît beaucoup. Donc ça, c'est dangereux parce que ça peut mettre en survie...
En danger, la survie.
Voilà,
ouais.
De l'espèce humaine.
Ouais.
Donc oui, c'est important. Le but, c'est pas d'être en super santé, le but, c'est d'être un immortel, dirions-nous. Donc c'est de spiritualiser cette matière.
David, nous arrivons au terme de cette émission. Avant de terminer vraiment, est-ce qu'on pourrait faire une petite synthèse de ce qui a été dit là, donc sur astrologie, psychologie, guérison ésotérique?
Oui, on pourrait montrer le lien entre ces trois sciences, entre guillemets, ésotériques, ces trois champs de connaissances, expliquer que l'astrologie traite des influences, donc des rayons, qui nous parviennent par les planètes, les signes d'abord, puis les planètes. Donc les planètes transmettent ces rayons-là, que ces rayons-là nous touchent aussi, nous, chaque être, chaque individu, et aussi est responsable de notre structure de rayons, parce qu'en fait, tous les rayons viennent forcément des planètes.
Mais ils sont transmis par les maîtres de sagesse, tu as dit, hein.
Oui, c'est les maîtres de sagesse, en tout cas, sont les gardiens des énergies. Ils reçoivent
sont intermédiaires, en quelque
voilà.
sorte.
Mais, et puis après, ces énergies, donc, en tout cas, nous parviennent. Et donc, on est forcément sous l'influence de tel ou tel rayon, et donc sous telle ou telle influence planétaire, on pourrait dire, même dans nos structures de rayons, dans notre thème et dans nos structures de rayons même, hein, parce que les rayons nous parviennent forcément des planètes. Et puis après, ces énergies créent des impacts dans nos différents niveaux d'être, qu'on appelle nos corps subtils, et tout ça impacte nos centres d'énergie. Et c'est l'être est par définition le résultat des énergies et du niveau vibratoire et des qualités d'énergie, des types d'énergie qui affectent ces chakras. On est le résultat de ça. Mmh. Donc on est résultat de nos planètes, qu'elles soient simplement passagères ou que ces influences planétaires créent nos structures de rayons. Tout est lié. Dans l'astrologie, en fait, il y a la structure de rayons, mais on ne sait pas la lire, mais elle est en fait dedans. Il y a toutes les influences dans notre thème astrologique. Et il y a aussi, on peut lire aussi parfois l'astrologie d'un point de vue psychologique. En fait, on le lit comme ça, hein, on peut voir les qualités, comment chaque personne vit telle planète, donc telle qualité, tel défaut de ce rayon-là. Et on peut aussi lire le thème et comprendre l'individu vis-à-vis des chakras. Les maisons peuvent représenter donc les zones d'impact, donc des chakras, des organes. Donc tout ça est relié, ça forme vraiment un vaste champ de connaissances, et l'astrologie, la psychologie, la guérison, tout ça va être de plus en plus relié, en tout cas au moins pour tous ceux qui étudient l'ésotérisme et peut-être pour ceux qui voudront collaborer ou s'intéresser à ces savoirs.
Voilà, et donc pour conclure, dire que ces connaissances sont extraites des ouvrages d'Alice Bellet, et notamment sa série qui s'appelle Traité sur les sept rayons, dans laquelle il y a des ouvrages sur l'astrologie, la psychologie et la guérison ésotérique.
Aux éditions Lucis Trust. Merci Olivier.
Merci David. On se retrouve le mois prochain, et en attendant, bonne soirée sur IDFM.